Et on est toujours au Stars and Bar à Monaco pour cette émission live consacrée aux initiatives positives en principauté en matière de développement durable. Alors, celles qui ont eu lieu cette année, mais également celles à venir. Et nous recevons donc tout naturellement Estelle Antonielli, qui est chargée du tourisme responsable à Monaco.
Bonjour.
Alors, cet été, pour la première fois, durant 15 jours, se sont tenus les Monaco Green Days. Qu'est-ce que c'est que cet événement ?
Alors, en effet, cet été, on a, avec la direction du tourisme, donc imaginé une opération destinée et dédiée au tourisme responsable. L'idée, c'était avec nos partenaires de réfléchir à une opération qui mêlait un petit peu tous les partenaires.
Qui sont les partenaires verts du tourisme ?
Alors, il y a tous les partenaires hôteliers déjà, également les institutionnels, l'ADO, bien sûr la fondation qui est intervenue durant les Monaco Green Days.
Ah, mais il y avait longtemps qu'on n'avait pas entendu Philippe.
Donc durant 15 jours, du 16 au 31 juillet, on a proposé à peu près 3 activités par jour autour du tourisme responsable pour mettre en avant les actions des partenaires et également sensibiliser les visiteurs sur leur lieu de vacances.
Une journée type de cette quinzaine, c'était quoi?
Alors,
ces
journée
initiatives
type, il y a eu la direction de l'aménagement urbain a été très très actif en proposant quasiment tous les jours des visites de jardins. Mm-hmm. Donc visite des jardins Saint-Martin, de la Roseraie, des jardins d'UNESCO. Et en fait, l'idée c'était de montrer leur démarche environnementale et comment ils traitaient de façon écologique les différentes espèces végétales. Ensuite, quelque chose qui a très très bien fonctionné auprès des enfants, mais des grands aussi, c'est la visite, la balade de la réserve marine du Larvoto, en bateau, avec des animations pour les enfants, qui était en fait une animatrice leur faisait une simulation de plongée et leur expliquait les différentes espèces qu'ils pouvaient trouver en Méditerranée. Donc ça, ça a très, très, très
bien. Et tout ça gratuitement ?
Alors oui, la quasi-totalité des activités était gratuite.
Ça vous a finalement été plutôt favorable, puisque vous avez prévu de renouveler l'opération en 2017.
Oui, ça a bien fonctionné. On est très contents des résultats. Les visiteurs qui ont pu participer à ces visites étaient tous ravis. On a eu de très bons retours. On a eu plusieurs messages de remerciements, de félicitations. Donc tout ça, ça nous motive pour l'année prochaine. Et on a l'intention de réitérer l'opération, peut-être sous un format un petit peu différent. On est en train d'y réfléchir.
Plus long ?
Différent. C'est-à-dire que l'année prochaine, en fait, l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme, a décrété que 2017 était l'année du tourisme responsable.
Ah, ça tombe bien.
Voilà. Donc on imagine peut-être sortir du cadre estival et ponctuer l'année d'action et de ponctuer l'année de Monaco Green Days, voilà. Un jour destiné au tourisme responsable, selon les saisons.
Montrer aux touristes Monaco sous un angle plus responsable, voilà, plus environnemental. On parlait tout à l'heure d'alimentation avec Jessica de Terre de Monaco et ses potagers. Est-ce que les restaurateurs et les hôteliers de la principauté jouent le jeu de cette démarche environnementale ?
Ben complètement, puisque déjà on a quand même le bio-chef à Monaco, Paolo Sarri, qui est le seul chef certifié.
Étoilé au Michelin, qui soit 100% certifié.
D'ailleurs, il vient de terminer une jolie opération, la Route du Goût, sur Monaco. Et on a de plus en plus de restaurateurs qui font la démarche de proposer du bio à leurs clients. La fondation travaille sur le Green Fish.
Ah, mais il y avait longtemps cette fondation. Bon, là, Philippe, 2-3 mots sur le Greenfish.
Non, la Greenfish, c'est une opération, c'est un mouvement qui s'appelle Mr. Goodfish.
Goodfish, pardon.
Voilà. Mais c'est pareil, c'est vert, hein, on va dire, bleu pour le poisson. Et en fait, c'est simplement expliquer aux consommateurs et aux chefs aussi, puisque c'est eux les vrais moteurs, que finalement, les poissons, c'est comme les légumes. Il y a des saisons. On ne consomme pas le poisson, on ne doit pas manger toujours le même poisson. Il y a des saisons où le poisson se reproduit. Il faut manger du poisson local parce qu'on a une grande diversité de poissons que l'on peut consommer. Et en variant notre consommation de poissons, évidemment, on réduit la pression sur certains stocks de poissons, ce qu'on mange toujours. Hein. C'est terrible, mais aujourd'hui, quand on va dans un restaurant moyen, on va dire, on a toujours les mêmes poissons proposés. Mmh. Or, il y a une tas de diversité de poissons. Et ces poissons, les consommateurs ne les connaissent pas, en fait.
Et les restaurateurs non plus, parfois, ils n'ont pas l'habitude de les proposer.
Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de grands chefs, hein, sur Monaco notamment, qui font cette démarche et qui proposent à leurs clients des poissons jusqu'à présent inconnus pour les consommateurs. Hein. Et c'est comme ça depuis quelques années qu'on revoit, par exemple, du mulet que tout le monde pensait que c'était un poisson d'égout, entre guillemets.
Oui, c'est qu'il y a pas mal de petites arêtes dans le mulet, mais ça c'est souvent mangé.
Voilà, mais c'est surtout, ça peut se préparer. Mmh. Et donc, notamment à l'Ermitage, par exemple, on sert du mulet régulièrement. Et voilà,
ça va pour les grands restaurants. Et ils sont nombreux ici à Monaco à avoir le standing, l'envie, la motivation d'un chef qui soit inspiré, etc. Mais il y a aussi des tas de petits établissements. Est-ce que ceux-là, ils suivent le train ou est-ce qu'ils sont un petit peu en marge?
Écoutez, franchement, on a de plus en plus de communiqués de presse qui nous arrivent à la direction du tourisme, de petits, entre guillemets, restaurateurs qui font la démarche, qui proposent tous les jours un menu ou alors à la carte un plat bio. Ça fait aussi partie, parce que j'ai parlé de ça aussi, des nouvelles démarches véganes.
Oui, il y a un établissement qui s'est ouvert 100% végan sur Monaco.
Même ici, nous sommes donc au Stars and Bars.
Oui, mais on en parlera avec Didier tout à l'heure, bien sûr.
Ils proposent aussi des plats. Ils ont une vraie démarche, une vraie politique. Et proposer des produits bio, locaux.
Donc vous qui avez un petit peu de recul par rapport à tout ça, il y en a de plus en plus.
De plus en plus, complètement.
Net, c'est net.
Carrément.
Bon, super. On peut dire que c'est une bonne nouvelle, ça. Vous aviez choisi un morceau. Oui, bien sûr, vous êtes prêté au jeu de la playlist, comme tous les invités.
Oui, c'est pas facile.
Et... Non, mais vous avez un choix très intéressant qui est en plus d'actualité, puisque c'est un morceau signé Alexandre Desplat que l'on entend à la fin du film. Exactement. Odyssée, le film de Tom Rosenthal qui est sorti en octobre sur nos écrans. Pourquoi ce morceau?
Pourquoi ce morceau? Alors, je me suis un petit peu creusé la tête, à vrai dire, avant de vous donner une idée de morceau. Et bien simplement, c'est le dernier film que je suis allée voir.
Et vous avez bien fait parce qu'il est bon.
Il est super. C'était lors de l'avant-première au musée océanographique. Et j'ai trouvé la bande originale magnifique. Et terminé sur cette... le film qui se termine par ce morceau, j'ai trouvé ça juste super.
On l'écoute. Voilà. Merci beaucoup.
Merci.
Alors, à ce moment très précis de l'émission, on aurait dû recevoir un membre de la direction de l'environnement pour nous présenter leurs actions, leurs initiatives 2016, 2017. Ils ne sont pas là. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va retrouver encore Philippe, qui vous manquait, j'en suis sûre, depuis plus d'une minute trente. Et exceptionnellement, Evelyne Tonelli, qui est la productrice de cette émission et la fondatrice de Radio Éthique. Mais on peut porter d'autres casquettes aussi. Hein. La présidente d'Ecopolis, une association de protection de l'environnement, Marie-Christine, n'a pas pu venir. Donc Evelyne, vous-même vice-présidente, l'a remplacée au pied levé. Est-ce que vous pourriez... Philippe également, vous faites partie de cette association. Est-ce que vous pourriez nous définir un petit peu, nous la présenter? Elle est très peu connue, on connaît MC2D, très bien. Par contre, Ecopolis, bien moins. Ne vous battez pas pour répondre. Hein.
Ecopolis, en fait, est une vieille association à Monaco, puisqu'elle existait avant MC2D, elle existait même avant la Fondation Prince Albert II de Monaco. Donc, elle a une antériorité. C'est une association très centrée sur la ville, en fait, à améliorer la qualité de vie à Monaco. Et donc, être là pour avoir des idées et proposer des sujets de développement durable. Au pouvoir public.
Hein, de manière complètement indépendante. En fait, c'est un peu ça la particularité, c'est ça?
Ah oui, complètement indépendante, et c'est important.
Hein. Pas de subvention,
il ne faut pas, justement, pour avoir gardé cette indépendance d'esprit, notamment, et pouvoir proposer des sujets qui, des fois, ne conviennent pas forcément au pouvoir public, ou des fois, ils n'ont pas pensé.
Le petit caillou dans la chaussure, de temps en temps.
A quelquefois des vertus.
Alors, justement, quels ont été, cette année, les domaines d'action, les projets portés par Ecopolis? Evelyne, peut-être quelques mots?
Oui, alors nous avons porté un projet, par exemple, de défense d'un jardin, d'un très joli jardin, un domaine public, qui avait été convoité pour une entreprise de tourisme qui nous semblait un peu inopportune à Monaco. Et nous avons fait en sorte que cela se sache et d'insister pour que ces jardins gardent leur destination, dont de lieux de promenade et de lieux privilégiés, parce que c'est un endroit exceptionnel. C'est un endroit, donc, les Jardins Saint-Martin à Monaco-Ville, autour du palais sur le rocher. Et il y a d'ailleurs, elles sont au-dessus d'une falaise, et cette falaise présente aussi un intérêt, puisqu'on pourrait imaginer, nous avons l'idée, de la faire peut-être un jour classée.
C'est la dernière falaise naturelle.
Et oui, c'est parce que là, on dit que Monaco est complètement urbanisé. C'est vrai que la côte l'est... qu'en partie, puisqu'il y a cette falaise qui est là depuis l'année des temps.
Qui est magnifique, on la voit d'ailleurs. Quand on pense au musée océanographique, on le voit à flanc comme
absolument.
Ça de falaise. C'est de cette falaise dont on parle.
Et cette falaise est encore ouverte sur l'horizon, puisqu'il n'y a pas, fond vieille. Y a pas, donc vraiment, cette falaise est un vestige de ce qu'était le rocher depuis la nuit des temps. Et donc, c'est important de la protéger.
Donc, vous agissez un petit peu comme un lanceur d'alerte, c'est-à-dire avertir la population. Ah, attention, il se passe ça. Vous n'êtes peut-être pas informé. Et puis, vous essayez de faire bouger les choses comme ça.
Oui. Lanceur d'alerte, ça peut faire un peu peur. Hein, mais c'est simplement être la voix des monégasques, je crois, simplement, et qui veulent un mieux vivre. Hein. Et puis, parce que, il y a des actions, des fois, toutes bêtes, qui sont importantes dans la vie de tous les jours, que les responsables du gouvernement ne voient pas forcément, parce que, ils ont d'autres occupations. Et puis voilà, la force d'une association, c'est que on est écouté par les pouvoirs publics. C'est comme dans tous les autres pays, hein, c'est la force de la société civile, c'est d'être une voix du plus grand nombre. Et c'est comme ça qu'on fait avancer les choses et qu'on fait...
On essaye d'être des citoyens vigilants. C'est-à-dire que, par exemple, on voit que des arbres sont transplantés et on les met quelque part pendant un moment. Et nous, on va faire des photos pour montrer que, finalement, ils ne sont pas du tout bien traités et que les pouvoirs publics ne respectent pas les engagements qu'ils avaient promis. Donc, à partir de ce moment-là, on peut agir. Et du coup, on voit que ces arbres bénéficient d'un traitement de faveur. On insiste aussi sur la mobilité douce avec peut-être de meilleurs moyens de circulation, des voies pour les vélos, une signalisation plus importante. Enfin, ça va dans ce sens-là, en fait. C'est un petit peu les citoyens qui se réapproprient la ville et qui font des suggestions.
Et sur l'extension en mer, vous allez dire un mot là-dessus, vous, en tant qu'association, ou pas? Est-ce qu'on vous demande votre avis en termes de protection de l'environnement sur un chantier comme celui-ci ?
Ben, non, on nous demande notre avis. Disons, de par notre statut, on donne notre avis. On n'attend pas qu'on nous le demande. Ceci dit, pour l'extension en mer, bon, c'est un peu particulier. Il y a un comité environnemental qui a été créé, qui fait, je pense, nous pensons bien son travail. Donc, voilà, évidemment, on surveille. Il y a une association qui est directement concernée, hein, parce qu'on a parlé d'Écopolis, d'MC2D, mais il y a l'AMPN, qui est l'association Monégasque pour la protection de la nature, et qui, jusqu'à présent, était en charge de la réserve du Larboteau, donc qui va être, qui est située pas très loin de cette future extension. Et donc, bien entendu, cette association regarde ça de très près.
Et une extension qui va concerner de très près notre prochain invité, Hervé Zorniotti, puisque c'est le directeur de la communication du Grimaldi Forum. Il aura vu de ses fenêtres sur cette extension. Hervé, vous pouvez vous rapprocher de la table, c'est à vous. Venez nous parler des prouesses technologiques du Centre des congrès de Monaco, qui depuis de nombreuses années déjà s'est investi dans une démarche éco-responsable à la fois vis-à-vis de ses clients, de ses prestataires de services, de ses locaux. On n'arrête plus de louer les initiatives vertes du Grimaldi Forum. Bonjour Hervé.
Bonjour Stéphanie, bonsoir à tous. Bien, je vois qu'en fait, vous avez fait un excellent pitch sur le Grimaldi Forum. C'est tout à fait ça. Non, mais c'est toute la prouesse de vouloir concilier une activité événementielle qui, à la source, est très, on va dire, très gaspilleuse en tout, hein, puisque le monde de l'événementiel, c'est le monde de l'éphémère. Donc, on crée des événements qui vont durer 2, 3, 4 jours, et puis on va passer à autre chose. Et se passer à autre chose, ça veut dire détruire, changer de décor. Et donc, c'est vrai que...
Et donc jeter,
c'est ce qui nous a fait prendre conscience dès 2007, en fait, qu'il fallait effectivement réduire l'impact de notre activité événementielle sur l'environnement. Et tout ceci nous a conduit à avoir une démarche que vous avez qualifiée d'éco-responsable, que nous avons traduite, nous, sous la forme d'une certification légitime, international, unanime, puisque c'est ISO 14001, donc qui nous a permis et qui nous a aidé à mettre en place un système de management environnemental, une formule un petit peu complexe, tout simplement pour dire que on est soucieux de réduire justement l'impact de notre activité sur l'environnement. Alors cela se traduit sur des économies d'énergie, l'électricité, l'eau, sur une volonté, tout ce qu'on jette, de le trier au maximum. Et après, d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche, à la fois pour sensibiliser nos personnels, nos fournisseurs, mais aussi nos clients. Donc, on fait un petit peu, disons, d'ingérence auprès des clients pour essayer de les convaincre aussi de nous accompagner dans cette démarche. Et au-delà de tout ça, on a aussi une mission, on s'est donné un peu une mission de communication et de sensibilisation en créant un outil de communication qui est un e-magazine qui permet de sensibiliser, on va dire, le grand public, non seulement aux actions du Grimaldi Forum, ça serait un petit peu mesquin de tirer la couverture uniquement à soi, mais de mettre en valeur, j'ai envie de dire, tout le savoir-faire, alors que ce soit des institutions publiques ou des entreprises privées, dans le domaine du développement durable, de montrer que bon, Monaco essaye à l'unisson d'apporter sa pierre à l'édifice.
Et comme ça, vous ratissez large. Il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés sur justement ces initiatives positives. C'est un petit peu le thème de notre émission également ce soir. Et on voit dans chaque édition qu'il y a vraiment des tas de choses. Évidemment, la Fondation Presse Albert II, qui a toujours au moins 2 pages pour le magazine.
Même plus, parce que bon, c'est notre partenaire privilégié. Et je dois dire que nous faisons ce magazine en collaboration très étroite avec la Fondation et avec la direction du tourisme. Ce sont les deux partenaires, on va dire, majeur avec qui participe activement à la rédaction, à la réflexion éditoriale sur ce support. Et c'est un peu le travail que vous faites ici sur les ondes, d'expliquer la réalité du développement durable à Monaco. Eh bien, nous, on essaie de le compiler une fois tous les 3 mois sur papier, alors papier virtuel, puisque ce n'est uniquement
dématérialisé complet,
pour montrer qu'il y a des gens à Monaco qui œuvrent dans ce sens, que ce soit des institutions ou des entreprises entreprises privées.
Avec de très belles photos, et j'avoue que moi je ne suis pas habituée à ces supports dématérialisés pour les magazines, et je prends quand même plaisir à le feuilleter, parce que les images sont belles, la mise en page est dynamique, intéressante, donc vraiment j'appelle les auditeurs à aller... Oui Philippe ?
Non, et moi je voulais encore féliciter le Grimaldi Forum, parce que même nous qui participons à cette IMAG, eh ben, en le lisant, on apprend des tas de choses, et je trouve que c'est bien de mettre tous les acteurs de la principauté engagés dans l'environnement à l'honneur dans cette... dans cet outil.
Voilà, c'est un très beau compliment de savoir que même à Monaco, les gens qui sont dans la partie, j'ai envie de dire, découvrent des choses concernant le développement durable.
Oui, c'est vraiment intéressant. Il est vraiment bien fait, ce magazine.
Mais il suffit d'aller sur le site du Grimaldi Forum ou de le retrouver sur le site de nos partenaires pour pouvoir le télécharger. Il est gratuit.
Vous disiez tout à l'heure être donc investi dans une certification ISO. Qui dit ISO dit aussi progression permanente.
Alors, nous sommes dans un principe d'amélioration continue. C'est notre gros challenge. Ce n'est pas parce qu'on a eu la certification en 2008 que maintenant l'affaire est réglée et qu'on peut se reposer tranquillement sur nos lauriers. Donc le principe, c'est que cette certification est remise en jeu tous les 3 ans avec des contrôles annuels. Et donc cette année 2016, ça a été l'année d'une nouvelle recertification. Donc pour nous, c'est toujours un challenge d'être dans les plots dictés par la norme. Alors ça, c'est assez contraignant d'un point de vue, on va dire, technique, administratif. C'est pas quelque chose dans lequel on se lance à la légère. Mais les résultats sont là, les voyants sont au vert, si je peux me permettre ce petit jeu de mots, au niveau des économies d'énergie, au niveau des taux de tri, au niveau de cette volonté de sensibiliser les publics. Donc nous sommes recertifiés pour 3 ans. Et dès l'année prochaine, nous avons fixé un nouveau domaine prioritaire. C'est un peu le cheval de bataille de la nouvelle certification. Ça va être d'améliorer notre taux de tri, qui est actuellement de 42% de tous les déchets que nous générons au Grimaldi Forum.
Et l'objectif serait de le passer à combien ?
Ce serait de dépasser, de franchir la barre des 50%. C'est l'objectif qu'on s'est fixé. Il faut savoir qu'on recycle et qu'on traite à peu près 524 tonnes de différents, que ce soit à la fois des gravats, du bois, du verre.
Il y a des bâches.
Les bâches qui sont recyclées, les moquettes aujourd'hui qui sont uniquement recyclables au Grimaldi Forum. Donc, tout ça, ce sont autant de filières que nous avons déterminées, que nous avons identifiées et avec lesquelles nous travaillons pour que ce tri se transforme après en recyclage.
Alors, merci beaucoup Hervé pour toutes ces précisions. J'espère que l'année prochaine, nous aurons l'occasion de vous féliciter pour cette augmentation du taux de tri.
Mais notez-le dans vos petits papiers. J'invite les auditeurs à le noter. Rendez-vous l'année prochaine. Objectif, au moins 50%.
Et votre choix musical n'était pas complètement désintéressé. Quand vous m'avez dit Dirty Dancing, je me suis dit, alors ça c'est étonnant. Et finalement, non, pas tant que ça.
Oui, parce que je suis le roi de l'autopromo. On n'est pas directeur de la com pour rien. Donc en même temps, c'était une manière de passer un petit message à tous vos auditeurs pour vous annoncer que la comédie musicale 2017 au Grimaldi Forum sera Dirty Dancing. Voilà.
J'adore, je suis fan.
Mais je sais, en plus de ça, je m'étais renseigné avant. Donc voilà, en 2017, au mois de juillet, entre le 10 et le 15 juillet, voilà, on va retrouver tout ce qui a fait l'âme du film que tout le monde connaît, malheureusement sans Patrick Swayze, mais voilà, on va retrouver les personnages, la bande son, tout pareil.
Merci Hervé Azzognotti, le rendez-vous est pris, on viendra l'été prochain écouter.
Merci Stéphanie, merci à tous et encore merci à notre ami et partenaire de la Fondation Prince Albert II.
Merci à tous. Thank you.
Silvio.
Yes, Mickey.
How you call your lover boy?
Come here, lover boy.
And if he doesn't answer?
Oh, lover boy.
And if he still doesn't answer?
I simply say,
nous sommes toujours en live du Stars and Bar sur le port de Monaco pour cette émission consacrée aux initiatives monégasques en faveur de l'environnement. Et nous sommes plus précisément dans l'Eco-Hub, c'est un lieu d'accueil associatif. Didier Rubiolo, vous êtes le cofondateur du Stars et c'est ici exactement qu'est née une nouvelle idée, une idée de collaboration associative. Racontez-nous un petit peu l'histoire de ce lieu qui, en fait, c'est nouveau. L'Eco Hub.
Oui, tout à fait. C'est avec l'impulsion, bien sûr, de Kate, qui est encore une fois.
Oui, je disais cofondateur, parce qu'il y a une cofondatrice. Exactement. Il n'y a jamais Kate sans Didier, et inversement.
Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous tourner sur de l'environnement par rapport à notre passé et ce que nous voyons de ce qui se passe aujourd'hui sur notre planète. Et avec la création de Monacologie il y a une douzaine d'années, et l'impact que ça avait donné sur les enfants, nous avons décidé d'utiliser plus le Stars and Bar, où nous avons beaucoup d'espace, pour nous donner un espace dédié à la rencontre avec les différentes associations, que ça touche aussi bien l'environnement extérieur qu'intérieur, pour l'humain aussi. Les ressources humaines sont importantes pour nous, que les gens prennent conscience aussi d'eux-mêmes. Et sur l'empreinte carbone aussi, d'expliquer, parce qu'il y a tellement de gens qui ne comprennent pas souvent ce qu'est l'écologie et la chose la plus importante, c'est aussi l'empreinte carbone pour nous. Voilà, donc aujourd'hui, on a dédié un espace. Bel espace. On a eu déjà, ça fera le quatrième événement depuis que nous l'avons lancé. Et qui marche très bien parce que ça fait un flux à peu près chaque fois qu'on arrive à mesurer de 400 personnes qui viennent pour rencontrer ou échanger, écouter des conférences dans la journée. Donc cela est très porteur et on est très content de cela. Voilà, et on espère continuer pour 2017 encore beaucoup plus. Et on invite tous les gens qui travaillent ou associations ou personnes privées qui sont tournés là-dedans, de venir nous rencontrer pour peut-être faire des expositions, des développements.
Voilà. Est-ce que vous mettez ce lieu, qui est à la fois grand et en plus central dans Monaco, gratuitement à disposition des associations qui désirent organiser un petit événement, une conférence, une remise de prix
Tout à fait.
C'est ça, voilà. Je ne dis pas de bêtises.
Non, c'est vraiment cela. On donne l'espace et on veut justement créer, c'est en fin de compte, en partageant. On veut faire du win-win, ça veut dire... Nous, aujourd'hui, ça va faire un trafic, donc on va toujours, c'est toujours porteur pour notre société, parce qu'il faut qu'on en vive. Mais en même temps, pour ces associations qui souvent ont des problèmes de trésorerie, oui. Ils donnent beaucoup de leur temps, et ça vaut tout l'argent du monde, de pouvoir avoir dans un endroit quand même à Monaco, qui est prestigieux, un espace de communication, de toucher peut-être plus les médias pour qu'ils viennent continuer à propager leur savoir. Voilà, mais c'est gratuit.
Donc on peut organiser des conférences de presse, des choses comme ça, tout justement, pour valoriser.
Tout à fait. On a un week-end sur la presse, justement, et sur l'écriture, où on invite toutes les maisons, les éditeurs, de venir présenter leurs livres, mais ça doit toucher, bien sûr, l'environnement, aussi bien pour l'humain que l'extérieur. Voilà.
Alors, je sais que le STARS s'implique donc beaucoup dans l'allègement de l'empreinte carbone de cette activité. Est-ce que cette année, il y a eu quelque chose de, au-delà de l'éco-hub, quelque chose de particulier, soit en cuisine, soit en salle, un effort nouveau ? Parce que bon, il y a déjà quelques plats qui sont bio. On sait que vous utilisez des produits ménagers les plus responsables possible, en essayant de ne pas trop. Voilà.
Oui, c'est compliqué, mais c'est un gros travail. Aujourd'hui, par exemple, on a passé toutes nos eaux avec une compagnie où on filtre notre eau et on le met en vente.
C'est-à-dire qu'avant de...
Donc avant, on prenait des bouteilles, donc on achète, qui ont fait peut-être 400 ou 500 km avant de venir ici. Et aujourd'hui, on filtre l'eau qui est très bien. Parce qu'il faut juste expliquer aux clients, c'est un coût quand même pour réaliser, mais vous avez une eau qui est neutre. Et souvent, les gens ne comprennent pas, ils pensent que... Bon, c'est un bon marketing pour toutes ces compagnies, hein, c'est un vrai business l'eau. Mais aujourd'hui, une eau filtrée est très très bonne. On doit juste réhydrater le corps de l'humain, c'est tout. Les minéraux, vous l'avez dans la nourriture, si vous êtes équilibré. L'eau, elle est là justement pour vous hydrater. Et aujourd'hui, avec une eau filtrée, c'est tout à fait ce qui se passe. Vous avez une eau qui est superbe. Et au contraire, gustativement, lorsque vous mangez un plat, c'est meilleur parce que vous allez découvrir plus de saveurs. Donc. Mais il y a une empreinte de carbone tellement réduite, parce qu'on peut le mesurer même si les bouteilles sont lavées et tout ça, on s'aperçoit que c'est énorme.
Parce que là, c'est des tonnes de plastique à l'année que vous
Là, on travaille avec du verre, mais qui souvent part, du moins, recyclé sans doute, derrière, mais une partie, mais avec tout ce qui passe. Mais le plus, c'est quand même quand on voit tous les casiers, on passe à peu près 300 bouteilles par jour en verre. On voit le volume et on sait que ces bouteilles, peut-être, viennent d'un hangar qui est basé à Lyon ou à Paris, qui ont transité, qui sont restés à la chaleur en plein été, quand vous avez des stockages en dehors des villes qui ne sont pas climatisés, hein, il fait 42 dedans. Je ne sais pas si l'eau est vraiment superbe.
Au moins, voilà, allez, c'est de l'eau
là,
vivante.
Aujourd'hui, on a une eau. Voilà. Bon, ça a été un point. On a travaillé avec beaucoup de petits maraîchers pour amener les produits. On
oui.
a, par exemple, maintenant, on a mis en place tout un système où on travaille vraiment le légume de saison, les fruits de saison.
Sur l'ensemble de la carte. Après, il y a les plafards que l'on retrouve toujours.
Non, mais par exemple, on a un plafard qui est un dessert surtout, qui est l'apple pie. Mm-hmm. Et aujourd'hui, en été, on ne fait plus d'apple pie parce que nous n'avons pas de pommes organiques en plein été. Donc là, on vient de reprendre le fin septembre la fabrication de nos apple pie. Nous fabriquons tous nos desserts. Et souvent, les gens ne pensent pas qu'on a 26 personnes en cuisine qui fabriquent tout. Et aujourd'hui, donc, les pommes, on a tout l'été. La saison a fini, c'était mai. Et donc, notre fournisseur a dit, si vous voulez des pommes, c'est avec des pesticides. Donc, vous avez le choix. Donc, on a arrêté.
Donc, vous avez dit non, on n'en
veut
pas.
Voilà, on n'en veut plus. Donc, on a arrêté. On a enlevé ce plat de la carte. On a une carte électronique, donc c'est facile pour nous. Et là, fin septembre, on a pu le remettre. Donc, voilà. Et nos légumes sont pareils. Cet été, on travaillait avec des courgettes, de la trompette, des différents. Des tomates, par exemple, c'était que de la cœur de bœuf. On avait un petit producteur qui nous l'a fait. C'était super. Et là, bon, c'est fini. Donc, on travaille avec d'autres produits, des choux, beaucoup de choux en ce moment. Voilà.
Et en 2017, vous accueillerez encore Monacologie.
Ah oui, Monacologie, bien sûr, là-dessus, on est tellement contents après 11 années où ça marche très bien.
Ce sera la 12e année, là, en 2017 ?
13e année. Donc les ateliers, ce sont toujours un peu différents, mais l'éducation nationale, qui a été un très grand soutien, apporte aujourd'hui une chose incroyable. Quand on voit les élèves qui, toute l'année, créent eux-mêmes des ateliers, se sentent vraiment responsables. On voit le travail qui a été fait. Ça a été très porteur. C'est des petites graines qui aujourd'hui poussent et on en est très contents.
Ces deux, trois dernières éditions, on a remarqué que, initialement prévu pour les enfants, les adultes commençaient un petit peu à trouver leur place dans Monacologie. Est-ce que ça continue, ça, en 2017 ? Est-ce que l'adulte va vraiment pouvoir aussi avoir des activités pour lui ?
Mais justement, aujourd'hui, on va essayer avec les co-op de créer un ou deux événements en dehors de Monacologie, mais pour présenter Monacologie en invitant le week-end les parents, parce que c'est souvent le calendrier, hein, les gens travaillent, pour vraiment faire une présentation et de créer des ateliers plus appropriés pour les parents, tout en présentant Monacologie. Donc ça va être pour 2017.
Très bien. Vous avez également choisi un titre.
Oui.
Alors, donc, vous avez choisi exactement une artiste. C'est moi qui ai choisi le titre. Ah, pardon, j'ai le micro. Bim. Cette artiste, c'est Enya.
Oui, Oui, on l'avait rencontré pour un Music Award ici à Monaco. C'est une personne qui est déjà incroyable. Quand elle chante, c'est magique. Mais qui est très éco-responsable depuis toujours dans sa vie. Et voilà, donc je crois qu'elle faisait. C'est parfait pour conclure, je crois, ce.
Absolument. Merci beaucoup, Didier. Ouais. Merci à tous les participants de cette émission. Merci à Evelyne Tonelli à la production et exceptionnellement en tant qu'invité. À Philippe Mondielli qui a donné son avis à peu près sur tous les sujets. Je crois qu'on a fait le tour. Merci à Hervé Zorniotti du Grimaldi Forum, à la direction du tourisme également et à Terre de Monaco. On se retrouve bientôt, d'ici quelques temps, pour un nouveau live, peut-être encore en direct du Stars & Bar ou ailleurs, qui sait. Bonne fin de journée.